bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry, comme vous avez reconnu la voix, et je suis avec mon colistier Franck. Comment tu vas, Franck?
Bonjour Landry, je vais très bien, et toi-même?
Oui,
je vais. Bonjour à tous nos auditeurs.
Je vais super bien, bonjour à tous nos auditeurs, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans un cadre un peu différent. Nous avons décidé de mettre en place une rubrique que nous appelons parcours de professionnel. Cette rubrique nous permettra et vous permettra aussi de découvrir des parcours de professionnels, des parcours hors normes. Et ça vous permettra également de connaître de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, à cet effet, comme premier invité pour cette nouvelle rubrique, nous recevons l'éminent Dr Barry Samuel. Bienvenue Dr Barry Samuel sur le podcast Ivoire Talent. Comment tu vas, Samuel?
Oui, je vais très bien, toi.
Oui, ça va super bien. Alors, Samuel, bon, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs.
Ok, ben, je suis Samuel Barry. Je suis manager chez un Big Four. Voilà,
En gros. Ok, c'est clair, c'est net, c'est simple. Mais bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Ok, écoutez, au niveau de mon parcours, c'est un parcours assez classique. Donc, de 2002 à 2005, j'étais au lycée classique d'Abidjan où j'ai obtenu un bac série scientifique, un bac C. En 2005, j'ai intégré l'Institut National Polytechnique Footboigny de Yamoussoukro en classe préparatoire commerciale. Donc, à l'issue des 2 ans, il y a un concours à passer. Donc, j'ai passé tous les concours. Donc, j'ai passé le concours de l'École nationale de statistique et puis le concours pour entrer à l'ESCAU. Également. Et à l'issue de ce concours-là, j'ai été admis à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, voilà, que j'ai intégré en 2007 en cycle d'ingénieur statisticien économiste. Donc de 2007 à 2010, donc, j'ai suivi le cycle d'ingénieur statisticien économiste et j'ai terminé par la voie finance actuariat parce qu'il y a plusieurs voies d'introduction à la fin. Il y a la voie finance actuariat, la voie statistique approfondie, je pense. Et à l'issue de ça, au niveau... je donne mon parcours académique. Hein. Peut-être qu'après, je donnerai mon parcours professionnel. Mais en termes académiques, de 2011 à 2013, j'ai intégré le programme de master en sciences actuarielles à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et à l'issue de ce master en 2013, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le programme doctoral de sciences actuarielles toujours à l'Université catholique de Louvain. Okay. Voilà. Donc en gros, j'ai terminé en 2017 à l'Université catholique de Louvain. Voilà. Donc ça, c'est pour mon parcours académique. Okay. Je ne sais pas si vous voulez que je...
Bien entendu, tu peux continuer aussi avec ton parcours professionnel également, c'est vraiment intéressant.
D'accord, au niveau professionnel, de 2010 à 2011, j'étais juste après mes études à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, j'ai été modéliste financier dans une société de gestion et d'intermédiation à Abidjan, où j'ai travaillé pendant 1 an, 4 mois, on va dire. Et puis ensuite, je suis venu en Belgique. Et après mon master en sciences actuarielles, j'ai été assistant à l'Université catholique de Louvain, précisément à l'ISBA, qui est l'Institut de statistique, de biostatistique et de sciences actuarielles. Donc j'ai été assistant à l'ISBA pendant 4 ans, de 2013 à 2017. Et ensuite, j'ai intégré une société de conseil comme senior consultant de 2017 à 2020. J'y ai passé 3 années. Et depuis début 2020, je suis manager chez un Big Four, donc un cabinet d'audit, un grand cabinet d'audit. Voilà. Donc, C'est ainsi résumé mes parcours académiques et professionnels.
Wow. C'est un parcours intéressant. On voit que tu n'as jamais eu de pause, en fait, pratiquement, parce que tu es passé à chaque étape d'une école à une autre, d'un poste à une autre. Vraiment, on sent que tu n'as pas eu de pause, que c'était un parcours très accéléré. Mais moi, j'aimerais revenir un peu déjà après tes 1 an et 4 mois dans la société de gestion et d'intermédiation. Est-ce que tu avais déjà nourri le désir de, parti poursuivre tes études à l'Université catholique de Louvain. Est-ce que tu avais déjà pensé à faire l'actuariat? Est-ce que tu y avais déjà pensé? Et si oui, pourquoi l'actuariat?
Ok, bon, je pense que déjà l'idée de poursuivre un actuariat m'est venue, on va dire, de conversation avec des amis. Donc j'avais un ami qui, quand moi je suis arrivé en ISE1, donc en cycle d'ingénieur statisticien économiste, qui lui partait faire une formation en actuariat. Il était en ISE3, il partait faire la formation. Et donc c'est dans les discussions que voilà, j'ai vu qu'il m'a expliqué un peu en quoi consistaient les sciences actuarielles. Et j'ai trouvé ce domaine-là assez intéressant. Et j'ai pris contact aussi avec des amis qui étaient déjà en poste à Abidjan, dans le domaine assurantiel. Voilà, et j'ai discuté avec eux, qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit aussi, voici les différentes tâches, par exemple, que les actuaires font. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce désir-là s'est confirmé en troisième année, où en ISE, on a des voies d'introduction, et la voie d'introduction que moi j'avais choisie, c'était la voie finance actuariale. On avait des profs qui étaient vraiment de grosses pointures dans ce domaine-là, qui nous ont donné les cours, vu qu'ils étaient des praticiens. Donc, ils savaient allier, disons, la théorie et la pratique. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ça m'a conforté, en fait, dans l'idée de poursuivre en actuariat. Et voilà, c'est ce qui a motivé, disons, mon choix pour poursuivre dans l'actuariat après mon expérience, disons, dans la société de gestion et d'intermédiation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, tu as répondu, mais j'avoue qu'il y a quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que je ne sais pas ce que c'est que l'actuariat. Qu'est-ce que c'est?
Exactement. C'est ce que je m'apprêtais à poser comme question.
Qu'est-ce que
Bon.
c'est en fait
Je vais
l'actuariat?
essayer de simplifier les choses. Je vais reprendre une définition que, justement, l'un de nos profs nous avait donnée en voie d'introduction en ISE3. L'actuariat, c'est simplement l'ingénierie du risque. Donc, partout où on parle de risque, on peut trouver un actuariat. En gros, c'est ce que je peux dire. Maintenant, les domaines, par exemple, où on retrouve les actuaires de façon prépondérante, ben, c'est en assurance. En assurance, on retrouve des actuaires en pension, tout ce qui est fonds de pension, instituts de prévoyance sociale, comme par exemple la CNPS ou la CGRAE, voilà, au pays. Ce sont des domaines où vous allez trouver des actuaires. Vous avez aussi la banque, on peut trouver également des actuaires. Voilà. Pour faire simple, si je peux donner un exemple, disons, d'activité que l'actuaire va faire, c'est par exemple en Côte d'Ivoire, tout ce qui est assurance auto, donc responsabilité civile, c'est une assurance obligatoire. Donc je pense que vous êtes véhiculé à Abidjan, voilà, vous avez l'obligation de payer une prime d'assurance chaque année. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Fadé, mais normalement, pour les différents véhicules, on doit payer une prime d'assurance. Et l'actuaire est celui qui calcule en fait ce prix, par exemple. Voilà, pour te donner un exemple.
Ah,
Et donc,
d'accord.
la prime d'assurance te donne une couverture pour qu'en cas de sinistre, l'assurance puisse prendre le relais et indemniser, disons, la partie adverse. Mais dans ce cadre-là, le prix que tu payes comme prime, si vous voulez, l'assurance est caractérisée par une caractéristique bien particulière qu'on appelle le cycle d'inversion. Donc, ça veut dire que dans une entreprise classique, quand tu vas vendre un produit, tu connais déjà ton prix d'achat. Ou disons ton prix de vente, je vais le dire, c'est plus simple. Tu connais déjà ton prix de vente. Le prix d'achat, c'est le prix auquel tu vas acheter ton matériel, peut-être pour, je ne sais pas moi, faire ton produit. Tu vas rajouter tes différentes marges et puis à la fin, tu auras ton prix de vente. Mais dans le cadre, par exemple, de l'assurance, ce prix de vente là, ou ce prix d'achat, le prix d'achat plutôt, dès le départ, tu ne le connais pas en fait. Parce que ça provient en fait d'un événement qui peut se réaliser ou pas. Donc c'est un événement aléatoire. Et puis ensuite, même si ça se réalise, le montant que tu vas payer, tu ne le connais pas. Donc ce prix de vente là est totalement aléatoire. Et donc le travail de l'actuaire, c'est de te fixer un prix déterministe, donc un prix certain, un prix que tu connais maintenant, mais sans pour autant connaître, disons, le prix qu'il va payer à la fin. Voilà. Et donc, le travail de l'actuaire, c'est de pouvoir anticiper ça.
En fait, l'actuel fait la magie, en fait.
Non,
C'est-à-dire...
il fait pas de la magie. Il fait pas de la magie parce que l'actuarié est basé, en fait, sur des techniques probabilistes, voilà, qui existent et qui permettent de pouvoir expliquer, en fait, les différents mécanismes qui sont derrière, donc le mécanisme de mutualisation, donc il y a des lois mathématiques qui sont derrière, comme la loi des grands nombres, enfin, certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop
techniques. Voilà. Ok, ok.
Donc en gros, c'est...
Ok. Ouais, c'est clair.
En effet, ça a été parfaitement clair. Et maintenant, je sais que voilà ce que c'est réellement l'actuariat. Et j'adore le fait que ce soit basé sur les mathématiques. Mais bon, Samir, j'aimerais savoir, existe-t-il des formations? Je sais que tu as parlé de l'UNCA, mais c'était juste une option. Donc, existe-t-il actuellement des écoles ou formations où on peut y aller pour devenir actuaire sur les territoires africains?
Je ne vais pas me limiter au territoire africain, mais je vais dire de façon globale ce que je sais. Mais déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, mais on a... le cycle des hautes études en assurance, donc le cycle HUA au niveau de l'INPHP,
okay.
Donc qui forme un certain nombre d'actuaires. Maintenant, okay. au niveau international, je peux regrouper en fait les approches en deux grands systèmes. Donc je vais parler peut-être du système francophone et du système anglophone.
Okay.
Donc dans le système francophone, enfin, que je connais le mieux pour y être passé, en fait, l'idée c'est qu'il faut intégrer une école qui est accréditée. Pour délivrer en fait le titre d'actuaire. Mmh. Donc par exemple en Belgique, il y a un certain nombre d'écoles qui sont accréditées, en France il y a un certain nombre d'écoles qui sont accréditées pour donner le titre d'actuaire. Et il faut pouvoir intégrer ces écoles-là, réussir la formation, et une fois qu'on réussit la formation, il y a un certain nombre de critères qu'il faut avoir, et puis cela nous permet de pouvoir avoir accès en fait à une organisation professionnelle. Par exemple en Belgique, c'est l'Institut des actuaires de Belgique, c'est un peu comme un ordre.
Okay.
Comme par exemple, il y a l'ordre des médecins, je dirais qu'il y a l'ordre des actuaires aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on intègre, par exemple en Belgique, on rentre en qualité de membre. Je pense qu'avant c'était membre candidat, maintenant c'est devenu membre tout court. Et il y a un certain nombre de, ils appellent ça CPD, donc il faut continuer à se former, donc il faut suivre un certain nombre de formations, de conférences et tout pour passer membre qualifié. Voilà. Mmh. Donc ça c'est le cas en Belgique. Donc, qui est, je vais dire un peu, permet de caricaturer un peu ce qui se passe dans le système francophone. Au niveau du système anglophone, les choses sont un peu différentes. Il y a certes une formation, voilà, donc on peut rentrer dans des universités qui dispensent la formation, mais pour porter le titre d'actuaire, il faut passer un certain nombre d'examens professionnels. Et il y a un certain nombre d'organisations professionnelles, par exemple les plus grandes que moi je connais, c'est la SOA, Society of Actuaries, on a la CAS aussi, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Angleterre, je pense qu'il y a la FIA, voilà, il y a un certain nombre d'organisations comme ça qui existent, et pour ça il faut passer en fait des examens professionnels. Mais le fait de passer par des formations, par l'université, voilà, nous donne déjà en fait les différents outils ou les différents rudiments pour pouvoir se préparer pour passer ces examens professionnels. Mmh. Voilà. Et donc, c'est à l'issue de ces examens hein, qu'on atteint peut-être le grade d'associé, donc de ASA, et puis après le grade de fellow. Voilà. Donc, c'est en gros les deux systèmes qu'on a pour devenir actuaire, disons, au niveau international.
Ok, je comprends parfaitement ce que tu as dit. Mais ça m'étonne que tu n'aies pas cité. Tu as cité au niveau de la Côte d'Ivoire, tu as cité la formation de HEA Hautes Études en Actuariat de l'INPHB de Yamoussoukro.
Il y a un nouveau diplôme, je pense qu'il y a une double diplomation qui a été implémentée par un année justement et qui permet de faire une double diplomation, je pense, à NCA et puis c'est quelle école encore, ISFA, je pense.
Voilà. Okay.
Et donc, je pense que dans ce cadre-là, il y a la coopération, disons, qui joue. Donc, il y a des profs, disons, de l'ISFA qui viennent dans les cours. Et puis, tu as des profs de l'INP, tu as des profs aussi de l'NCA, tu as des professionnels aussi. Oui, en effet, il y a cette formation-là qui existe aussi. Et pas seulement qu'à l'NCA, il y a aussi une formation, je pense, à l'université Félix-Sophie Boigny, je pense, avec l'IRMA. Donc, avec le département de mathématiques, il y a également une formation là-bas. Je pense qu'ils étaient au niveau de licence. Je ne sais pas s'ils ont ouvert le niveau master encore.
Okay.
Et puis bon, il y a peut-être certaines formations dans des écoles privées, certainement.
Ok.
Ouais. Ouais.
Merci pour
l'invitation. Et là-dessus, je me pose la question, vu qu'on voit qu'il y a plusieurs formations qui existent pour les sciences actuarielles, je voudrais savoir est-ce que fondamentalement, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, la formation en actuariat de l'HEA, master, double diplomation, ou bien l'Université catholique de Louvain. Et est-ce que pour le domaine de l'actuariat, est-ce que c'est important ou bien est-ce que c'est souhaitable de faire le doctorat? Parce qu'on voit qu'il y a licence, master, doctorat. Et est-ce qu'il y a un plus en fait finalement d'avoir le doctorat ou bien est-ce que au niveau des différentes formations, est-ce qu'il y a des différences, des subtilités, que ce soit en Belgique, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des différences qu'il faut préciser?
Ben déjà, je pense qu'en termes de différence, ce qu'il faut voir, c'est que les choses sont adaptées en fonction des différents pays. Donc, la formation, certainement, en HEA, en signe d'ingénieur HEA ou à l'ENSEA, va être certainement calqué en fait, sur ce qui est fait localement. Donc, va tenir compte, en fait, ce que je veux dire, va tenir compte des réalités du pays. Donc, la formation en Belgique, par exemple, est calquée sur les réalités qu'on a en Belgique. Donc, déjà, il y a cette différence-là en termes d'applicabilité, enfin, d'application. Je veux pas, les principes sont les mêmes, mais je veux dire, ce à quoi est appliqué, ça dépend aussi du contexte dans lequel on évolue. Donc, il y a déjà ça. Et puis, je pense qu'au niveau, bon, ce que je veux dire n'engage que moi, au niveau théorique, donc en termes de recherche et tout, je pense que la formation en France, peut-être, bon, est assez intéressante, mais moi, j'ai préféré la formation en Belgique. Bon, je ne suis pas allé en France, donc je ne peux pas dire que, voilà, que la formation là-bas est meilleure qu'ici. Dans tous les cas, je prêche pour ma chapelle. Moi, j'ai trouvé vraiment la formation que j'ai suivie assez intéressante. Donc, en gros, la différence que moi, je vois, c'est le contexte dans lequel on va appliquer l'isolation assurance. En Côte d'Ivoire, on va parler peut-être, il y aura peut-être plus des aspects relatifs à la zone CIMA. Ici, il y aura peut-être plus des aspects relatifs à la Belgique. En France, il y aura plus des aspects relatifs, voilà, à la France et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la seule différence que moi je vois. Mais sinon, en gros, l'actuariat, les principes sont universels. Ce sont plus ou moins les mêmes principes, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Côte d'Ivoire. Voilà, l'actuariat est la même science, on va dire. Donc ça, c'est pour le premier volet de la question. Maintenant, le deuxième volet de la question, je ne sais pas si tu peux répéter, c'est concernant le doctorat, qu'est-ce que tu voulais savoir exactement?
Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que le doctorat, parce que je peux me tromper, mais on a souvent tendance à penser que le doctorat, ça donne une aptitude pour la recherche, mais pour l'enseignement. Mais je voulais savoir, est-ce que le doctorat au niveau de l'actuariat, ça permet d'avoir plus de connaissances, plus de maîtrise et donc d'être plus efficace en entreprise? Ou bien quelle est la plus-value en fait du doctorat au niveau de la filière actuarielle?
Ok, bon, déjà, pour être actuaire, faut pas forcément faire le doctorat en actuariat. Ça, je tiens à le préciser. Voilà. Une fois qu'on a fini par exemple en Belgique, une fois que qu'on a fini le master en actuariat, on suit les différents critères qui sont donnés par l'IABE, on devient actuaire sans problème. Donc, il y a plein d'actuaires qui travaillent sur la place, qui n'ont pas forcément le doctorat. Là, je tiens vraiment à le préciser, ils sont très professionnels dans ce qu'ils font. J'ai la chance vraiment de travailler avec des professionnels du domaine qui n'ont pas forcément fait de doctorat et qui sont hyper compétents. Ça, il faut le dire. Il faut vraiment le préciser. Voilà. Maintenant, concernant le doctorat, bon, c'est vrai que il y a deux aspects en fait sur lesquels on travaille en thèse de doctorat. Bon, moi, je suis passé par le parcours d'assistant. C'est-à-dire que j'étais à la fois chargé des différents travaux pratiques, voilà, de certains cours, et à côté de ça, il y avait ma recherche doctorale. Voilà. Donc, le doctorat permet de développer en fait des compétences en termes d'enseignement, ça c'est clair. Vu qu'on avait, on avait, vu qu'en tant qu'assistant, j'avais des charges de travaux pratiques, mais cela me permet aussi de pouvoir développer, disons, des compétences en termes de recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème qui est posé. Il faut pouvoir trouver des solutions, il faut pouvoir trouver des solutions innovantes, ou des solutions peut-être parfois qui n'existent pas, qu'il faut créer, qu'il faut tester, qu'il faut voir. Donc, en termes de conception, par exemple, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de pouvoir formaliser un problème et puis de pouvoir le résoudre. Je pense que c'est une qualité aussi qui est pas mal prisée aussi en entreprise, dans la mesure où parfois on a à résoudre des situations qui ne sont peut-être pas écrites dans des bouquins. Et donc, il faut s'asseoir, il faut essayer de concevoir, il faut essayer d'appréhender les choses. Donc, en termes de conception, je pense que ça a été une réelle plus-value pour moi. Et puis, en doctorat aussi, bon, on voit des méthodes qui sont très poussées, donc plus poussées parfois, des méthodes, je vais dire, expérimentales, c'est-à-dire que qui ne sont pas forcément sur le marché pour l'instant, mais qui ont du potentiel, en fait. Et donc, ce qui fait qu'on est à l'affût vraiment des nouveautés et tout. Donc, avant que, par exemple, tout ce qui a affaire au monde du big data et le machine learning, disons, prenne de l'essor dans l'industrie, mais je pense que c'était d'abord l'affaire des académiques. Et donc, dans ce monde-là, il y avait cette stimulation-là. Et puis, bon, après, il y a eu un transfert de compétences, disons, vers l'industrie. Et donc, mon doctorat, ça m'a permis de pouvoir être alerte sur les nouvelles techniques, par exemple, qui viennent de sortir, de pouvoir les comprendre. Donc, ça te donne le fait de pouvoir être, disons, exposé à cette technique-là, font que tu développes aussi une capacité à pouvoir t'appréhender ou t'accaparer de cette nouvelle technique-là assez rapidement. Parce que tu comprends un peu les subtilités, tu arrives à bien comprendre les choses qui sont hyper techniques et tout. Donc, ça m'a permis de pouvoir développer cette compétence-là.
Wow. Ok.
C'est qui est bien. C'est bon. Oui, c'est clair, c'est clair.
C'est parfait.
Je pense qu'au tout début, tu as parlé un peu des secteurs d'activité ou de quelques secteurs d'activité où les acteurs interviennent. Mais j'aimerais revenir sur cette question. Peux-tu nous citer les secteurs d'activité où les acteurs interviennent? Peux-tu nous donner quelques gros noms de boîtes mondialement reconnues où les acteurs sont embauchés? Parce que ça aussi, ça a une plus-value parce que lorsqu'on s'engage dans une formation, c'est pour, à la fin de la journée, soit créer son entreprise, soit travailler dans une entreprise. Donc, pour ceux qui veulent travailler dans une entreprise, voilà, peux-tu nous donner des noms, des gros noms, en fait?
Bon, déjà au niveau des secteurs, je pense que ce que je peux citer, il y a différentes branches, en fait, au niveau de l'assurance, de l'actuaire, on va dire. Enfin, de l'assurance en général. Et donc, il y aura autant de branches, il y aura autant de domaines qu'il y a de branches, en fait. Donc, par exemple, au niveau de l'assurance, il y a tout ce qui est assurance vie, donc ce qui est lié, disons, à la personne humaine, décès ou survie. Il y a l'assurance non-vie, donc, qui regroupe généralement tout ce qui est incendie, branche auto, voilà, responsabilité, et puis tous les autres risques qu'on a. Il y a les pensions, la branche des pensions. Il y a également un secteur qui peut-être est un peu moins connu, disons, de la moyenne de la population, mais il y a la réassurance. Donc, la réassurance, pour faire simple, ce sont les assureurs des assureurs. Donc, c'est-à-dire que derrière les assureurs, il y a des gens aussi qui offrent des couvertures aux différentes sociétés d'assurance. Donc, ça, ce sont les sociétés de réassurance. Mais il y a également les cabinets d'audit. Par exemple, moi, je travaille dans un cabinet d'audit. Et il y a les cabinets de conseil où les acteurs peuvent travailler. Il y a également le régulateur. Le régulateur du marché, par exemple, si on prend le marché bancaire, c'est la BCRO, mais au niveau de l'assurance, ça va être la CIMA, par exemple. Ça, c'est dans la zone, dans notre zone. Ici, en Belgique, ça va être la BND, donc la Banque nationale de Belgique. Et un domaine aussi où les acteurs peuvent travailler, ben, c'est dans l'académique, dans les universités. Voilà, donc il y a vraiment une variété de domaines dans lesquels les acteurs peuvent travailler. Donc, dans les banques aussi, voilà.
Ok. Non, en fait, je voulais juste renchérir pour dire que même maintenant, dans mon domaine, le domaine de la cybersécurité, on parle maintenant de cyber insurance, c'est-à-dire des polices d'assurance dans la cybersécurité.
Exactement. Et puis, concernant les grands noms, bon, au niveau mondial, il y a des grands groupes, hein, qui sont assez connus, du style, pour ne pas faire de publicité, Allianz, AXA. Et puis, voilà, chez nous aussi, en Côte d'Ivoire, il y a un grand groupe comme Sumo, NCA, voilà, SAM et compagnie.
Ok, et puis, ok. Voilà. Ok, mais là en fait, je suis convaincu qu'il y a des auditeurs qui doivent se demander, mais est-ce que avec mon background, avec ma formation, mon bac, ma formation actuelle à l'université, est-ce que je peux prétendre à une école d'actuariat? Donc j'aimerais que tu puisses un peu nous éclairer dessus. Quelles sont les aptitudes fondamentales ou encore les aptitudes requises pour faire une formation d'actuaire? Et pour réussir cette formation-là.
Les aptitudes. Bon, moi je dirais, dans un premier temps, il faut être quelqu'un de très curieux. Donc, il faut être quelqu'un qui aime découvrir des choses. Ça, c'est déjà une bonne compétence à avoir. Et avant d'aborder les compétences plus techniques, il faut avoir de bonnes aptitudes en maths. Ça, c'est très important. C'est vraiment, je veux dire, la base, avoir de bonnes aptitudes en maths, tout ce qui est calcul de probabilité, voilà, théorie de la mesure. Statistiques, économétrie, si on veut aller plus loin, mais avoir un bon background en mathématiques, je pense que c'est vraiment crucial. Et puis, il faut avoir de bonnes aptitudes en programmation. C'est aussi très important parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut programmer, qu'il faut rendre opérationnelles et tout. Donc, il faut avoir de bonnes compétences en programmation. Pas forcément être des programmateurs invétérés comme vous, mais il faut avoir, disons, les aspects de. Comment on appelle ce truc encore? D'algorithmique.
Algorithme,
Au
ok.
moins. Voilà,
Algorithmique,
donc je
ok.
trouve que ça, il faut les avoir. Et dans la formation d'actuaire aussi, et c'est valable aussi de façon générale, il faut avoir un bon niveau en anglais. Ça, je trouve que c'est une compétence qu'on occulte assez souvent, mais qui au final ressort parce que la plupart des bouquins. Disons, d'actuariat soit anglais. Voilà. Et donc, il faut pouvoir lire en anglais, il faut pouvoir comprendre. Et donc, je pense que c'est une compétence aussi à ne pas négliger. Parce que bien souvent, quand on était au lycée, bon, ce sont des choses auxquelles on ne prêtait pas attention, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que l'anglais est quelque chose de très important.
C'est super important. C'est super important.
Ça, c'est bien dit là, parce que l'anglais, on se rend compte que l'anglais nous retrouve partout en fait, quelle que soit la formation. À un moment, il faut maîtriser l'anglais pour pouvoir exceller en fait. Ok,
Et,
vraiment, c'est bien dit, c'est bien
et
noté.
si tu veux aller global aussi, tu es obligé de parler anglais, tu es obligé de pouvoir comprendre l'anglais. Je pense que Landry aussi peut en témoigner. Et
Oui.
le truc, c'est que quand on est dans notre petit, excusez-moi du terme, notre petit cocon en Côte d'Ivoire ou en Afrique quelque part, dans un pays francophone, on pense que c'est la langue qui est la plus parlée au monde. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il faut sortir un peu pour voir un peu que c'est vraiment pas le français qui est la langue la plus parlée. Donc
Exactement. Et même, je pense que Samuel, tu vas peut-être le confirmer, mais dans le monde, dans le milieu de la recherche même, pratiquement toutes les publications sont à la fois peut-être, même si tu es dans le monde francophone, tu vas faire ta publication au moins en deux langues, en français et en anglais. Et pratiquement toutes les
dans le monde de la recherche est encore plus cruel. C'est tout en anglais.
Exactement.
Les
Exactement.
bouquins, les articles qui sortent sont en anglais. Et
Tout est en anglais.
tu n'as vraiment pas le choix. Tu n'as
Voilà le.
vraiment, vraiment, alors là, vraiment pas le choix. Ça, je tiens à te le dire.
Le chercheur qui est quelque part au Japon, quand il fait sa publication, que tu retrouves sur
Il va
les lieux de
le faire en
publication,
anglais.
c'est en anglais. Donc
Voilà.
voilà.
C'est vraiment la langue de la recherche.
Exactement.
Voilà.
Je ne
C'est pas
cesserai de
nécessaire
le
comme ça.
dire, mais franchement, pour ceux qui nous suivent depuis le début de nos podcasts, on revient toujours sur cette affaire d'anglais. C'est très important. Et ce que j'aimerais dire aussi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, si dès maintenant tu décides, tu trouves que l'anglais c'est important pour toi, tu peux t'y mettre. Et voilà, vous pouvez aussi nous contacter. Yves Talano, nous vous donnerons des astuces pour rapidement améliorer votre anglais. Bon, moi j'aimerais savoir, parce que nous aussi, on a beaucoup parlé de l'actuaire et autres, on a beaucoup parlé des grandes compagnies qui les embauchent et autres, mais est-ce que tu peux nous donner un peu les différents profils de carrière d'un actuaire?
Mais je pense que ça va dépendre d'abord du type d'entreprise dans lequel il tombe. Si c'est dans une compagnie d'assurance, il y a peut-être un profil typique, si on peut dire ça comme ça. Si c'est dans un cabinet de conseil, il y a un profil aussi. Si c'est dans un cabinet d'audit, il y a également un autre profil. Donc par exemple, si je prends les cabinets d'audit dans lesquels moi je travaille, bon, c'est le profil des auditeurs, hein, c'est-à-dire D'abord, on est consultant, après, on passe senior consultant, ensuite, on passe manager, ensuite, on passe senior manager, puis ensuite, directeur, puis à la fin, on passe associé. Donc, en gros, ça, c'est le profil typique, disons, en cabinet. Voilà. C'est le profil qui est carré typique en cabinet. Maintenant, en société d'assurance, ben, généralement, bon, c'est quoi? C'est actuaire, ensuite, actuaire senior, peut-être après, tu deviens chef de service. Certainement, après peut-être chef de département, après directeur de département, puis après pourquoi pas DG, ou pourquoi pas PDG. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Voilà. Donc en gros, c'est à chaud comme ça, c'est le profil typique que moi je vois.
Mais quand
Mais ça, mais
est-ce
ça dépend, mais ça dépend vraiment
de
du type
l'entreprise?
d'entreprise dans lequel on tombe. On peut avoir aussi des actuaires un peu partout, on peut avoir des actuaires également en marketing. Parce que pour pouvoir concevoir des produits, généralement, ce sont des équipes qui sont assez transversales. Donc, on peut avoir un actuaire qui est là pour tarifer le produit, mais il a besoin aussi de l'aspect légal. Donc, il y a un juriste aussi qui peut lui dire est-ce que ce qu'il tarifie est admis par la loi ou pas. Le marketeur aussi est là, qui a sa connaissance du marché, va dire, bon, voici par exemple ce que le marché, ce dont le marché a besoin, comment est-ce qu'on peut marketer le produit et tout. Donc ce sont des équipes assez transversales et l'acteur également peut trouver sa place là-bas, oui.
Je vois. C'est clair.
C'est intéressant, effectivement, c'est très intéressant. Et Samuel, j'aimerais te demander, est-ce que tu as un modèle, que ce soit un modèle en ce qui concerne le domaine de l'actuariat, et un modèle généralement d'un point de vue général dans ta vie professionnelle? Et si oui, qui sont ces modèles-là?
Bon, je pense que les modèles, les personnes qui nous inspirent, il y en a plusieurs. Donc, en tous les cas, donc moi, la première personne qui me vient, c'est ma mère. Voilà. Et pourquoi? C'est vraiment à cause de deux qualités qu'elle avait. C'est vraiment sa rigueur dans le travail et son éthique dans le travail. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est déjà une personne qui m'a inspiré. Donc, déjà depuis tout petit, mais je l'ai vu travailler en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique et tout. Donc, j'ai vu vraiment son éthique de travail. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de copier. Voilà. Maintenant, on va dire dans le monde professionnel, bon, on a des mentors, enfin, j'ai certains mentors, j'ai certains aînés également qui m'inspirent beaucoup, je ne veux pas citer les noms. Mais ils se connaissent, ce qui m'inspire également énormément. On a également nos devanciers qui sont bien connus de la place. Donc, par exemple, M. Patrick Dion, disons, du groupe Sounou, M. Diagou du groupe NCA. Ce sont des personnes en fait, qui nous inspirent parce qu'ils ont bâti en fait, de toutes pièces leur
C'est
groupe.
ça.
Et donc, ce sont les
C'est
personnes
ça.
qui sont vraiment inspirantes. Et puis, bon, il y a également la panoplie de mentors, peut-être qu'on voit, je sais pas, dans les livres. Ou de personnes qui nous inspirent dans les livres ou dans les choses qu'on regarde. Par exemple, un qui me vient à l'esprit, qui n'est vraiment pas du domaine de l'actuariat, c'est Jeffrey Katzenberg. C'est un Américain. Je l'ai vu dans un bouquin qui s'appelle Les managers du rêve. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais si vous voulez, en gros, ils ont repris, disons, l'affaire de Walt Disney et puis ils ont donné Walt Disney. Moi, je dis qu'il faut voler aujourd'hui. Voilà. Et par la suite, Jeffrey Katzenberg est devenu le président, enfin le fondateur de Pixar. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, ils font de célèbres dessins animés
Toy
et tout.
Story, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc, voilà. Et c'est vraiment le caractère, par exemple, de ce personnage à Jeffrey Katzenberg, moi, m'a beaucoup marqué. Donc, si j'ai un livre, en même temps, par l'occasion, si j'ai un livre à conseiller, c'est vraiment ce livre-là. Il n'est pas les managers du rêve. De Joker. C'est pas mal. Ouais. Donc en
C'est bien
gros,
noté.
je peux dire que ce sont les sources d'inspiration que j'ai, si je peux les catégoriser ainsi, c'est ce que je peux dire.
Ce qui est bien dit, hein, c'est clair, c'est vraiment super. Mais Samuel, nous, malheureusement, nous tendons vers la fin de notre podcast. Mais avant, bien avant, j'aimerais que tu donnes des conseils pour ceux qui veulent être actuaires et qui sont encore hésitants. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil?
Est-ce que je peux donner comme conseil? C'est en tous les cas, si vraiment la formation naturellement vous intéresse, ben, il faut avoir de, comme on l'a dit tout à l'heure, de solides priorités en mathématiques, tout ce qui est calcul de probabilité, parce que naturellement est basé sur ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir. Il faut avoir les compétences en programmation. C'est également crucial. Voilà. On a parlé également de l'anglais. Donc, il faut améliorer ses compétences en anglais, donc en termes de reading, en termes de listening. Et puis bon, au moins celui-là. Au moins, il faut pouvoir comprendre ce qu'on dit et puis lire également les différents documents qu'on a. Donc l'anglais est vraiment crucial parce que, par exemple, ici, lors de la formation à l'UCL, le Master 2, presque tous les cours étaient en anglais. Et également, on avait des cours d'échange avec la KU Leuven où typiquement tout le monde parle anglais là-bas. Il n'y a pas un seul mot de français. Et donc, je pense que l'anglais est vraiment une compétence capitale à avoir. Je pense que pour être passé par les séries scientifiques, on sait que parfois, les langues sont des matières qu'on néglige, en fait, les séries scientifiques, parce que bon, les coefficients ne sont pas très élevés et tout, et tout. Mais je pense que c'est vraiment important à avoir, parce que ça finit toujours par moi. Donc, ça, c'est ce que je peux te donner en termes d'éthique, en termes de qualité ou si vous voulez, d'exigence à avoir pour pouvoir embrasser une formation actuelle. Maintenant, dans le monde professionnel, il y a une panoplie de compétences à développer qui n'ont peut-être rien à voir avec l'actuariat, mais qui sont tout aussi importantes à avoir. Il y a la rigueur, l'éthique de travail, pouvoir être agile aussi, voilà, pouvoir s'adapter à toutes les situations. Voilà. Donc en gros, c'est ce que je peux dire comme ce que je peux donner comme conseil à ceux qui veulent embrasser la carrière actuelle.
Ok.
Excellent.
Ok. Je pense que les conseils étaient vraiment avisés pour ceux qui veulent embrasser la carrière, mais et pour ceux qui sont encore hésitants. J'ai pas vu cette partie-là dans les conseils.
Mais pourquoi ils hésitent en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils hésitent? Moi, je ne sais pas.
Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On s'est dit, je dis des choses comme ça, hein. Peut-être, est-ce que ça paye vraiment? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi ne pas partir en finance? Pourquoi ne pas faire du marketing? Voilà, ce sont des choses, des questions qui sont, voilà, qui pendent, que certaines personnes se posent avant de se lancer dans un choix de carrière bien précis. Donc, toi qui es dans la carrière, je pense, je te connais très bien, tu es dans la carrière, tu sais ce qu'il faut dire pour emmener quelqu'un qui hésite à se lancer dans une formation en actuariat ou bien dans une carrière d'actuariat. Donc, c'est.
Ok, d'accord. Mais déjà, je pense que la carrière, c'est un choix. Donc, le choix, c'est pas. Voilà, moi, je ne vais pas choisir pour la personne en question. Mais si, à la question de savoir si l'actuariat pour nourrir son homme, je crois que oui, il suffit simplement de regarder un peu les métiers les mieux payés. Il y a différents rankings qui existent sur Internet. Bon, je pense que l'actuariat n'est pas mal placé. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que je peux dire. Est-ce que je peux dire, tant qu'on est bon dans son domaine, on arrive toujours à retomber sur ses pieds.
Très bien. Je pense que c'est vraiment très clair. Et avant qu'on termine ce podcast, j'aimerais savoir quel est ton mot de fin que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs et peut-être plus particulièrement à ces jeunes-là qui sont en train de soit passer le bac ou bien qui sont en pleine année universitaire, peut-être en licence ou bien dans leurs premières années.
Ok. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que il est important d'avoir une vision très tôt. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ce qui nous a manqué un peu quand on était peut-être au lycée. Je veux dire, au lycée, moi, si on me disait que j'allais être actuaire, je pouvais pas le dire, en fait. Voilà, au lycée, moi, je savais pas ce que c'était l'actuariat. Mais je pense qu'il faut avoir une vision très tôt. Et pour pouvoir avoir une vision très tôt, il faut fréquenter, disons, les aînés. Il faut aller voir ceux qui travaillent déjà. Ils ont déjà les informations, donc c'est-à-dire fréquenter des plateformes comme Ivoire Talent, comme cette émission, ce podcast qui sont, ce podcast qui est maintenant créé, sont autant, disons, de moyens de pouvoir avoir une idée sur les différents profils qui existent. Donc moi, ce que je veux leur dire, c'est déjà pour pouvoir affiner leur vision, c'est de ne pas... C'est vraiment d'aller à la rencontre des aînés. C'est vraiment important. C'est vrai que les aînés, nous aussi, on a notre part, on a notre give back aussi à faire. Mais je pense qu'il faut, il faudrait pas être limité en se disant est-ce que la personne va vouloir m'expliquer, est-ce que la personne va m'ouvrir les portes. Et non, je pense que franchement, pour être dans le domaine, et je pense même qu'avec vous, vous êtes vraiment, les professionnels sont vraiment des gens qui sont très ouverts. Je pense qu'il faut prendre la peine d'aller vers les aînés, de discuter. Ils ont une meilleure vue sur ce qui se passe réellement. Ils ont une meilleure vue sur les métiers qui payent, sur les métiers qui sont très en vogue, sur les métiers d'avenir également. Et donc, si très tôt, on a cette approche-là, ça va nous permettre en fait de pouvoir nous orienter très rapidement, disons, dans une filière qui correspond avec la vision qu'on aura développée. Voilà. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment ce conseil-là. Okay. Le deuxième conseil que je peux donner aussi, c'est vraiment d'être curieux. Donc, ça rejoint un peu le premier conseil, c'est d'être curieux, de se développer. Se développer, c'est pas seulement au niveau académique. Une fois qu'on a les compétences académiques, il y a tout ce qui est soft skills. Donc, on est en perpétuel apprentissage. Voilà. Et puis, troisièmement aussi, ce que je peux donner comme conseil, c'est plutôt dirigé vers les étudiants ou voilà, les élèves des filières scientifiques. Ce n'est pas parce qu'on fait des sciences qu'on est au-dessus ou qu'on est au-dessus de tout le monde. On a vraiment à apprendre des autres. Donc, je pense qu'il y a cette notion d'humilité-là qu'il faut avoir. Et puis, cette notion de se dire qu'on peut apprendre de l'autre pour être assez complet. Bon, de façon ramassée, est-ce que j'ai un autre conseil aussi à donner? Oui, je pense qu'il faut avoir un mentor, c'est très important. Donc, ça rejoint un peu le premier conseil d'aller discuter vers les aînés. Et parmi ces aînés-là, si on a une vision claire de ce qu'on veut, il faut pouvoir identifier un mentor. Donc, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir vous diriger un peu. Pouvoir vous dire, voilà, par exemple, il y a tel métier qui paye bien et tout. Voilà. Donc, ou voici par exemple, même le mentor peut vous donner des conseils par exemple en matière d'interview. Donc, par exemple, le dernier podcast que vous avez eu avec Marlène était vraiment excellent. Et je trouve qu'elle donne de bons conseils sur LinkedIn, sur les différentes plateformes. Et donc, il faut pouvoir trouver un mentor. Je pense que si on est jeune et qu'on a déjà un mentor très rapidement, ça nous permet en fait de gagner du temps. Voilà, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de pouvoir développer les compétences qu'il faut très rapidement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, bon, une fois en entreprise, il y a d'autres types de personnes qu'il faut trouver, il y a d'autres types de compétences qu'il faut développer. Mais à chaud comme ça, ce sont les conseils que je peux donner. Donc, développer sa vision, curiosité, humilité, apprentissage et puis mentorship.
Ce qui est clair, ce qui est bien dit, très très intéressant, très très profond. Et je retiens une chose, c'est qu'il faut toujours avoir un mentor et très tôt dans son processus, très tôt dans sa carrière, très tôt même en étant encore sur les bancs. C'est très important. Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous te remercions, Samuel, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un autre épisode de Parcours de professionnels, qui est la nouvelle rubrique du podcast Voir Talent. Nous allons recevoir des professionnels ici. Vous allez découvrir leur boulot, vous allez découvrir ce qu'ils font, vous allez connaître leur parcours, les parcours qui pourront vous inspirer aussi à faire pareil que, sinon mieux. À bientôt, c'était Marc Landry et Franck Fadet pour le podcast Ivoire Talent. À bientôt.
À bientôt.